EMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, déjà, notre thème du jour est « Tu as plus de valeur que ce que tu penses ». Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, comme chaque vendredi, nous terminerons avec la rubrique « C'est mon histoire ». Cette fois-ci, j'ai reçu Nanny Fox qui nous a raconté comment elle a manqué d'estime de soi pendant toute son enfance. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien aujourd'hui?
Oui, bien.
La fin de la semaine déjà.
Déjà.
Ça passe vite.
Chaque semaine, ça passe tellement vite. Ça passe très très vite. J'espère que pour vous aussi à la maison, ça passe vite et que vous avez hâte de nous retrouver la semaine d'après. Parce que sinon, c'est dommage. Aujourd'hui, nous allons parler de notre valeur. Oui, nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu, mais à nos yeux, par contre, souvent, on a tendance à mépriser notre valeur. Et on va voir tout ça dans la pensée du jour. Jonathan, le titre de ta pensée, ne dis pas que tu ne vaux rien. Oui, c'est bien ça.
C'est ça, ne dis pas que tu ne vaux rien. Et l'estime de soi, c'est peut-être un des plus grands fléaux du 21e siècle. Il suffit de regarder quelques statistiques. J'ai fait des recherches vite fait, mais bon, je ne suis pas un spécialiste en statistiques ou en sociologie. Mais en tout cas, l'estime de soi, et peut-être vous êtes concerné, c'est un problème. La question, si on devait poser la question, c'est quoi ta valeur? Quelle est ta valeur? Eh bien, il y en a qui vont répondre, je ne vaux rien. Et il y en a même qui vont répondre, je vaux moins que rien. Et encore, d'autres, je n'ai pas une grande valeur, je ne vaux pas de grand-chose. Et que dites-vous aujourd'hui? Quelle est votre valeur? Et je vous exhorte, je vous encourage, et puissiez-vous bien le prendre aujourd'hui et que ça puisse en tout cas rentrer quelque part et changer quelque chose dans votre vie, ne dis pas que tu ne vaux rien. Avec le titre de la pensée, vous l'avez bien compris. Alors, c'est pas l'ennemi de ton âme qui doit déterminer ta valeur. C'est pas la société qui doit déterminer ta valeur. C'est même pas ce que toi tu penses qui détermine ta valeur. C'est ce que Dieu dit. Il y a quelques années, je lisais une parabole bien connue, bien célèbre dans Luc chapitre 15. Et en lisant cette parabole, il y a un petit détail qui m'a sauté aux yeux, vous savez. Des fois, on est tellement habitué à lire un texte qu'on oublie le contexte. Et cette parabole, c'est celle de la brebis perdue. Je dis, ah, on connaît la parabole de la brebis perdue. C'est une parabole qu'on raconte aux enfants le soir ou à l'éducation chrétienne ou à l'école du dimanche, certainement. Mais la parabole de la brebis perdue, c'est pas l'histoire où Jésus est autour du feu, kumbaya, hein, avec la guitare, et puis il raconte une histoire à ses disciples, et pour dire à ses disciples combien il les aime. Non, il y a un contexte. Et il y a un contexte de tension. Il y a un contexte de murmure. Il y a un contexte de reproche. Si on lit dans Luc chapitre 15, verset 1er, c'est ça le contexte, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, il y a toutes ces gens-là, cette catégorie qui sont là, mais et les pharisiens et les scribes murmuraient, comprenaient, ils rouspétaient, en disant, cet homme, en parlant de Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Ils sont en train de se plaindre, de contester, de murmurer, de faire des reproches à Jésus parce qu'il accueille des gens qu'ils considèrent de mauvaise vie, des gens de peu de valeur, des gens méprisables, et Jésus mange avec eux. Et la parabole de la brebis perdue commence, en fait, le contexte commence avec un petit mot de quatre lettres, « mais ». Et ce petit mot fait toute la différence. Luc chapitre 14, verset 3, Luc chapitre 15, il y a marqué 14 dans les notes ici, mais ça va être corrigé. Luc chapitre 15, verset 3, « mais ». Il leur dit cette parabole. Et le « mais » ici vient en contraste. Il y a les pharisiens et les scribes qui disent « mais ces gens sont des gens de mauvaise vie, qu'est-ce que fait Jésus avec eux ?» Mais Jésus, en réaction, va leur raconter une histoire. Et le « mais » ici, c'est pas simplement « ils ont dit ça et Jésus raconte une histoire », mais l'histoire est la réponse de Jésus à ses murmures et à ses critiques. Et cette histoire va souligner tout le contraste entre le point de vue des pharisiens et des scribes et le point de vue de Jésus. Et il y a, au travers de cette histoire, un appel à changer d'évaluation. Les scribes et les pharisiens considèrent que ce sont des gens de mauvaise vie, des publicains, des gens de mauvaise vie qui sont pas fréquentables et Jésus n'a rien à faire avec eux. Mais Jésus raconte une histoire pour dire non, pour moi, ce sont pas des gens qui ne sont pas fréquentables, c'est une brebis perdue. Mmh. Ce sont des brebis perdues. Mmh. Et quand Jésus raconte l'histoire de la brebis perdue, il fait référence aux gens de mauvaise vie et aux gens de mauvaise fréquentation, à ces publicains. Et Jésus dit, pour vous, pharisiens, ces gens n'ont pas de valeur, mais pour moi, ils ont énormément de valeur. À tel point que le berger laisse les 99 brebis dans la bergerie pour aller chercher cette brebis perdue. Il est en train de dire quelque part aux pharisiens et aux scribes, je vous laisse de côté pour aller les chercher eux, parce que eux ont énormément de valeur à mes yeux. Et c'est important quand on réalise ces choses, ça doit venir nous amener à changer notre évaluation. L'évaluation de vous-même, l'évaluation des autres, et de dire, mais le berger m'aime au point de venir me chercher, au point de laisser tout pour venir me chercher, parce que tu as de la valeur. Si ça avait été un mercenaire, il aurait dit, bon, un pourcentage de perte, 1%, de perte, c'est raisonnable. Puis bon, c'est qu'une brebis, on ne va pas mettre en danger les 99 pour aller chercher cette brebis perdue. Elle l'a cherchée, elle n'a que ce qu'elle mérite. Non, le berger aime sa brebis, et pour ce berger, cette brebis-là a beaucoup de valeur. Et à la fin, quand Jésus raconte la parabole et qu'il dit que ce berger va inviter ses amis et dire « Venez vous réjouir avec moi, car celle qui était perdue est retrouvée », et cette invitation à la joie des retrouvailles, c'est quelque part directement adressé aux pharisiens et aux scribes en disant « Réjouissez-vous plutôt de ce que je mange avec des publicains et des gens de mauvaise vie, parce qu'ils sont, ils étaient perdus ». Et maintenant, ils sont sauvés, ils étaient loin, et maintenant, ils sont revenus dans la bergerie. Alors, aujourd'hui, si tu as déjà réalisé que Jésus est ton berger, qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, réjouis-toi avec lui, réjouis-toi avec ce berger. Tu as énormément de valeur au point qu'il est venu pour toi. Et quelque part même te dévaloriser, c'est offenser Dieu, parce que c'est dire le contraire de ce que Dieu dit. Et je conclue avec un verset dans Zacharie chapitre 2, verset 12, et je lis dans la Bible en français courant. Dans ce verset, il est question du Seigneur de l'univers et il est question de ce qu'il aime. Et il dit, « Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. » Et c'est comme ça que Dieu te voit.
Amen, amen, amen. On peut regarder tout de suite notre verset du jour qui va tellement dans le sens de ton dernier verset. 1 Corinthiens 7, 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix. » On est précieux, comme on peut le voir dans Zacharie. On a été rachetés à un grand prix, comme on peut le voir dans Corinthiens. On est, aux yeux de Dieu, notre valeur est inestimable, au point où il a choisi, c'est ça, d'abandonner le ciel, d'abandonner toute la gloire, d'abandonner son Père au ciel pour venir sur la terre, pour donner sa vie pour nous, tellement on a un grand prix. Et on est dans une société où notre valeur est plus déterminée par les études qu'on a faites, les diplômes surtout qu'on a, même avoir fait des études, si on n'a pas les diplômes
à la fin,
ça ne sert à rien. Le salaire, exactement. Exactement. Peut-être nos origines, nos parents, notre lignée familiale.
L'esthétique.
Exactement, l'esthétique aussi. Il y a plein de critères, mais en fin de compte, ce sont des critères qui sont complètement farfelus, si on veut bien, qui n'ont pas réellement de poids, parce que ça ne détermine pas qui on est à l'intérieur, ça ne montre pas à l'intérieur de nous comment on est, qui on est. Et dès le moment où on est devenu enfant de Dieu, on a une valeur qui est, même si on ne l'est pas encore, parce que la brebis, elle avait une forte valeur, mais quand on est enfant de Dieu, on sait que c'est Christ qui habite en nous. Et même si nous, on se voit avec tout un tas de défauts, tout un tas de faiblesses, Christ en nous nous rend parfaits et notre valeur est exceptionnelle, en fait, aux yeux de Dieu.
Mm-hmm. Moi, je pense
vas-y.
Une chose importante, c'est de croire ce que la parole de Dieu dit et pas croire ce qu'on ressent.
Oui.
Parce que souvent, on est là, on a nos yeux sur nous-mêmes, sur nos défauts, comme tu mentionnes, plein de choses. On dit, ben moi, je suis pas comme telle personne, je suis pas beau ou aussi intelligent qu'une autre personne, ou peu importe, on a toujours nos critères personnels. Mais Dieu, lui, nous aime comme nous sommes. Et puis, on doit vraiment exercer notre foi, je pense, pour vivre vraiment victorieusement au niveau de notre estime. On doit croire ce que la parole de Dieu dit et dire, la façon que je ressens les choses, là, en fait, c'est pas ça qui va déterminer la vérité. Donc, je dois exercer ma foi. Et tu sais, la Bible le dit, donc je vais croire ce que la Bible dit. Et finalement, je vais arriver à ressentir aussi la vérité. Mais il faut premièrement prendre la décision, je crois.
Oui, c'est vrai.
Et les critères des hommes, ils sont fluctuants. Puis c'est ça qui peut peut-être nous aider à se dire, non, mais ma vraie valeur, c'est vraiment Dieu qui la fixe, pas les humains. Parce que tu vois, même dans une même société, mais au fil de l'histoire, eh ben, on accordait une valeur sur des critères complètement différents. Aujourd'hui, tu disais les diplômes. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire en France, c'est les diplômes et puis le savoir, la position sociale qui va
la
jouer.
Culture.
Tu te mets 250 ans avant, c'était si tu avais des titres de noblesse, si tu avais des terres qui brillaient au soleil.
Si tu étais
bien blanc de peau dans certaines circonstances. Oui, exactement. Oui, il y a d'autres sociétés où c'est le niveau du teint que tu as. Tu as tout ça. Si tu étais d'une lignée célèbre, dans d'autres sociétés, c'est si tu étais d'une lignée prestigieuse. Si t'étais fils de, même si t'avais pas d'argent, pas de diplôme, rien, mais t'étais d'une lignée prestigieuse. La valeur des hommes est très fluctuante, mais celle qui ne varie jamais, c'est celle que Dieu nous accorde.
Exactement. Amen.
Il y a des trésors dans l'église. Il y a des gens qui sont des trésors dans l'église et qui se dévalorisent et qui arrivent pas juste à, qui restent juste sur un banc et puis, alors que Dieu les appelle à être des personnes extraordinaires, mais ils se disent juste, moi, je suis pas pasteur, je suis pas sur l'estrade, je fais pas ci, je fais pas ça, et ils se dévalorisent, alors que Dieu veut servir. On parlait à l'église de deux petites grand-mères qui ont amené un réveil, c'est en Irlande, c'est ça?
En Écosse, pardon.
Pardon, mes amis écossais. Ces deux grands-mères, il y en a une qui était aveugle et l'autre qui avait de l'arthrite ou je ne sais quoi. Et Dieu se sert des choses viles pour confondre les choses qui sont justement honorées dans ce monde-là. Et on a tellement de trésors dans l'Église, ceux qui n'arrivent pas à voir leur vraie valeur. Au final, si tu considères que c'est ta valeur, toi, ce que tu en penses, toi, ben c'est que tu t'idolâtres aussi de la même manière que la personne qui se trouve super. Parce que ça veut dire que si j'avais ça, si je possédais tant, si j'étais comme ci ou comme ça, je pourrais le faire, alors que Dieu veut faire des choses dans ton état tel que t'es là. Dieu veut vraiment t'utiliser. Et lorsque Dieu a créé des gens, c'est certainement pour des glorieuses destinées. C'est pas pour que les gens soient méprisés. Mmh. Et d'ailleurs, la Bible dit que les gens disaient, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Galilée? Mmh. Est-ce que cette ville peut apporter quelque chose? N'est-il pas le fils du charpentier? Et il y aura toujours du mépris dans ce qu'on est, dans notre histoire, de là où on vient, mais Dieu a une toute autre histoire à nous faire connaître et c'est important qu'on s'accroche à celle-ci, à celle que Dieu veut qu'on déploie dans notre vie.
Dans un autre contexte, à un moment donné, Jésus va dire, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et il compare un petit peu la relation du Père avec nous, la relation avec notre famille. Et je change un peu le contexte, mais vous comprenez que si nous, on est capable d'aimer nos enfants et nos petits-enfants, et on aime nos enfants pas parce qu'ils ont fait de grandes choses. Un bébé, il a rien fait. Hein. Oui. On va dire, t'as rien fait dans la vie, il a feignant. Hein. Non, je veux dire, on l'aime et il a de la valeur. Et pour nous, il a beaucoup de valeur. Et puis, je suis surpris des fois, en tant que pasteur, on va à la maternité, puis les parents disent, qu'est-ce qu'il est beau, puis on regarde le bébé aussi. Pas sûr. Mais pour les parents, c'est le plus beau. Hein. Il est magnifique, il est formidable et il a beaucoup de valeur parce que c'est leur enfant. Mais Dieu nous voit comme ça et Dieu vous voit comme ça. Vous avez peut-être l'impression de pas valoir grand-chose ou de parce que vous avez rien fait, parce que vous avez pas fait ceci, parce que vous avez pas cela. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. Il vous aime tout simplement parce que vous êtes son enfant et il a tout donné pour vous. Et quand on réalise ça, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous et à quel point il nous aime et à quel point on a de la valeur pour lui, on peut être que réconforté, puis que bien dans notre peau, quelque part, en disant, les autres peuvent dire n'importe quoi, moi j'ai un Dieu qui est grand, qui est fort et qui m'aime.
Amen. Amen. Mais, tu parlais, Joël, des versets bibliques, de ce que la parole de Dieu dit, puis c'est vrai que c'est ça qui doit être notre échelle de mesure. Mais parfois, on est tellement assaillis par tout un tas d'oppressions, en fait, qui nous font nous sentir tellement moins que rien, qu'on a beau lire, ça pénètre pas. Et vraiment, je prie vraiment que les gens qui nous écoutent puissent avoir vraiment une révélation, comme si ce verset avait été écrit pour eux. Un verset, dans les versets qu'on a cités ou d'autres, il y en a plein qui parlent de notre valeur. La Bible dit que nos cheveux sont comptés, donc ça prouve à quel point Dieu nous aime, mais qu'il puisse y avoir une vraie révélation. Dieu a écrit ça, et quand c'est écrit ça, ça parle de moi, c'est ma valeur. Et ça va vraiment tout changer, parce qu'on a besoin de s'approprier. La parole de Dieu doit être vivante en nous, donc on peut la lire, jusqu'à ce qu'elle pénètre et qu'on la croit. Parce que certaines fois, on peut dire, oui, ben ça c'est valable pour tous les autres, mais moi, ça me concerne pas.
Je pense que c'est une chose importante aussi. Des fois, on peut parler de l'esprit de rejet, et on peut parler littéralement d'un esprit, et l'esprit de rejet serait à ce moment-là un esprit de mensonge, où on a cru des mensonges, et parfois, on a besoin de prier et commander à ces esprits de mensonges de quitter, et une fois que la personne a été libérée, a vécu cette délivrance, bien là, ensuite, la personne doit croire la parole de Dieu, être reprogrammée, si on veut, avec la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas toujours forcément un esprit, mais oui, on peut juste avoir comme un esprit où on a été brisé à l'intérieur et on a besoin de vivre une guérison. Mais aussi, des fois, il y a vraiment une oppression qui vient sur une personne et on doit prendre notre autorité et chasser. Et ensuite, on reçoit la parole de Dieu et on médite. Et je veux répéter aussi ce que j'ai dit au début. Là, après, on doit vraiment décider, je vais croire ce que la parole de Dieu dit, même si je ressens rien en ce moment, parce que je vais finir par bien ressentir les choses. Mais c'est ça, je pense, on doit vraiment comprendre qu'une dimension aussi spirituelle où on a cru, l'esprit de rejet, c'est un esprit de mensonge. Et le diable, c'est le père du mensonge. Oui. Donc, on fait le ménage, et puis après, on croit la parole de Dieu, et on reçoit notre guérison et notre restauration, qui peut prendre aussi un certain moment.
Amen, amen. Je crois qu'il y a des personnes qui nous écoutent. En tout cas, j'ai vraiment ça qui monte dans mon cœur. Toute votre enfance, vos parents vous ont dit que vous ne valiez rien, que vous n'aviez jamais rien faire de bon, que vous n'étiez bon à rien. Et si c'est votre cas aujourd'hui, si vous nous écoutez, vos parents vous ont dit ça, vraiment, je vous invite à rejeter toutes ces paroles. Vraiment, dans la prière, dites non, c'était des mensonges, je refuse de croire ça. Et commencez à dire à quel point vous êtes précieux, à réciter ces versets que Dieu a dit sur vous et demandez à Dieu de vous remplir vraiment de son amour pour que vous puissiez ressentir à quel point il vous aime. Quand on connaît, quand on goûte à l'amour de Dieu, on sait que si quelqu'un, un être aussi extraordinaire que Dieu peut m'aimer, c'est forcément que j'ai de la valeur. Donc je vous invite vraiment à ne plus croire ces mensonges qu'on a dit sur votre vie. Toute votre enfance, on vous a dit ça. Peut-être à l'école, peut-être vos parents. C'est faux, c'est des mensonges. Vous êtes précieux, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui doit compter pour vous. Et on va regarder maintenant le témoignage de Nali Fox qui est venue dans C'est mon histoire, qui est venue nous raconter son histoire. Vous allez voir que toute son enfance, elle a manqué d'estime de soi au point où elle s'est vraiment égarée. Mais Dieu est venu la chercher. Je vous invite à regarder ça dans la rubrique C'est mon histoire. Et on continue avec la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je suis avec Nali Fox, que vous connaissez peut-être, qui a fait des émissions « Paroles de femmes ». Elle est venue aujourd'hui nous raconter son témoignage. Bonjour Nali.
Bonjour Emilie.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Je suis très contente que tu sois avec nous.
Réellement pour moi, ça me fait vraiment plaisir.
Oh, bah, on est tous très heureux de t'avoir sur le plateau de « C'est mon histoire ». Et moi, j'ai découvert ton histoire dans l'émission « Paroles de femmes », comme plusieurs personnes peut-être, mais il y en a peut-être qui ne te connaissent pas. Et aujourd'hui, tu vas nous partager un peu certains détails de ta vie au niveau de l'estime de soi. Vraiment, tu avais vraiment à cœur de pouvoir partager ce que tu as pu vivre au niveau du manque d'estime de soi qui t'a conduit à prendre certaines décisions, à certains choix qui t'ont malheureusement éloigné de Dieu. Mais je casse tout de suite le suspense. Tu as été obéissante et puis tu as vraiment connu le Seigneur et ta vie aujourd'hui est plutôt merveilleuse, j'ai envie de dire. Et on va commencer au commencement, forcément. Toi, tu es née en France.
Oui.
Et puis, à l'âge de 5 ans, vous avez immigré au Canada. T'es arrivée au Canada avec ta maman, ton papa et ton frère et ta sœur, c'est ça?
Ou avec
c'est deux petites sœurs.
Je suis l'aînée, oui, d'une famille de 3 enfants. Mm-hmm. J'ai deux petites sœurs qui viennent tout de suite après moi. Donc, oui.
Et vous êtes arrivée, c'est ça, au Canada?
On est arrivée au Canada au mois de, c'était au mois de décembre, ah en oui, plein hiver.
En plein hiver. C'était oui, violent, le choc?
Ah oui, vraiment. Surtout que ça fait, c'était la première fois qu'on voyait un mètre de neige dehors.
Wow.
C'était la première fois qu'on enfilait des gros pantalons de neige, des habits de neige et tout. Donc, mais c'était bien, c'était amusant, on aimait ça. Mes sœurs et moi, rouler dans la neige et tout ça, c'était nouveau, mais c'était vraiment plaisant.
C'est des beaux souvenirs.
Des beaux souvenirs, oui.
Et tes parents, eux, sont chrétiens, ils ont toujours été chrétiens. Et pour vous, très vite, l'habitude d'aller à l'église les dimanches, on ne se pose pas la question, vous aviez vraiment cette habitude-là.
Ah oui.
Et vous aimiez ça, les
oui,
enfants.
Oui, oui. Donc, tous les dimanches, on allait à l'église. Ma maman faisait partie du groupe de louanges à l'église. Elle conduisait le groupe de louanges. Et mes sœurs et moi aussi, très vite, on a intégré l'école du dimanche et tout. J'étais dans le groupe de louanges aussi des jeunes.
OK.
Dans la chorale des jeunes aussi. Donc, on était vraiment très impliqués.
Puis c'était des moments pour toi de vous retrouver entre amis, en fait. Pour toi, l'église, c'était ça. C'était,
ah oui,
c'était bien, c'était amusant.
Oui, exactement. On était un grand groupe de jeunes, une chorale, une petite chorale. Il y avait la chorale des enfants. Avant, j'étais dans la chorale des enfants. On était quand même une trentaine d'enfants.
Ah oui, quand même.
Et ensuite, à l'adolescence, j'ai transféré dans la chorale des jeunes, qui était aussi, on était un peu plus, peut-être une quarante ou une cinquantaine. Donc,
j'avais plein d'amis.
J'avais plein d'amis. C'était toujours, lorsqu'on se voyait, c'était toujours des occasions aussi de pouvoir se regrouper, faire des activités ensemble.
Et pour toi, c'était ça l'église. Pour toi, c'était pas vraiment Dieu, l'église. C'était les amis, passer du bon temps. C'était agréable.
Passer du bon temps, chanter, chanter des cantiques, chanter des louanges, donner des prestations à l'église. Un peu comme théâtral, un peu,
oui,
si je pourrais dire
c'est
ça comme ça.
C'est ça.
Donc, l'église, c'était ça.
C'est ça. Toi, tu n'avais pas de relation vraiment avec Dieu. Est-ce que
non,
tu priais parfois?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Des petites prières. Merci Seigneur pour la nourriture avant de manger et tout. Mais avoir une conversation, prier comme aujourd'hui, avoir une conversation avec Dieu, non.
Pas du tout.
Pas du tout.
C'est ça, tu le connaissais pas vraiment, en fait.
Je le connaissais pas.
Toi, tu étais plus dans le plaisir de te retrouver avec des amis, mais que ça aurait soit à l'église ou ailleurs, comme tu dis, au théâtre ou n'importe où, ça n'aurait rien changé, en fait, pour
exactement,
toi. Je comprends. Et puis, en grandissant, tu étais une petite fille très scolaire, tu travaillais bien, tu avais de bons résultats à l'école. Et puis, au bout d'un moment, à partir d'un certain âge, le désir d'avoir des amis, de plaire aux autres, est venu s'installer en toi.
Ah oui, beaucoup. Au niveau du primaire, oui, comme tu l'as mentionné, Evelyne, j'étais une personne studieuse, une élève studieuse, une élève modèle, première de classe.
Wow!
Oui, mes parents, ils ont... on leur faisait souvent la mention que, waouh, votre fille est très intelligente, elle apprend vite, elle a des bonnes notes et tout. Donc, j'aimais les études. Au primaire, en tout cas, j'aimais les études. J'avais hâte de rentrer à la maison, faire mes devoirs. Je réussissais vraiment bien. Jusqu'au niveau secondaire, là où, là, par exemple, c'est... Au début, ça a bien été, mais... Là, par exemple, à part les études, j'ai commencé à me faire des amis. Ce que je n'avais pas au primaire.
Okay.
Au primaire, j'étais beaucoup concentrée à l'église, aux
à
études, puis à l'église aussi. Mes amis, c'était les jeunes de l'église.
Ouais.
Mais au secondaire, j'ai commencé à rencontrer d'autres types de personnes, me faire des nouveaux amis.
Ouais. Et l'influence a commencé la mauvaise influence, disons, a commencé à porter du fruit dans ta vie.
Ouais.
A commencé un peu à désobéir à tes parents, c'est ça?
Oui. Oui. C'est là que je commençais à faire des mauvais coups. C'était le regard des autres, je pourrais dire. Le regard de mes amis sur moi était très important. C'était important pour moi de me faire accepter, de me faire aimer dans un groupe. Donc, j'étais prête à tout, en fait. Prête à désobéir aux règlements des parents, aux règlements de la maison, au fait, pour me faire accepter dans le groupe.
Au point de ne plus être vraiment toi-même, parce qu'en fait, toi-même, c'était une petite fille quand même sage, obéissante, qui aimait l'école. Et comme, justement, tu manquais d'estime de toi, tu pensais qu'on ne pouvait pas t'aimer tel que tu étais, c'est ça?
Exactement. Exactement.
Mais au point...
Je pensais que pour... C'est ça. Là, c'était un amour conditionnel. Conditionnel, comme on dit. Pour être aimée, il fallait que je...
Fait que tu gagnes leur amour pour être comme eux, en fait.
Exactement.
Et suivre leur mauvais exemple, malheureusement.
C'est ça.
Et ça t'a amené des complications à la maison, forcément. Tu désobéis, tu rentres tard, tu respectes pas.
Oui, c'est ça. Ça m'a amené. Oui, je suis rentrée vite dans la désobéissance, dans la confrontation avec mes parents. Tout ça, c'est sûr que ça a amené une instabilité pour moi au niveau, dans le nid familial et tout. Donc, j'ai traversé plusieurs difficultés. Suite à ça, suite à cette période de transition,
oui.
On peut dire ça comme ça.
Transition du mauvais côté.
Transition du
côté
mauvais
obscur.
Côté. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, c'était devenu très, très, très difficile à la maison.
Au point où, juste avant tes 18 ans, tu as décidé carrément de quitter la maison, de partir. Tu as pris ton petit baluchon, si on peut dire, tes quelques affaires qu'on peut avoir à 18 ans.
Exactement.
Et tu es partie vivre avec ton petit copain, parce que tu avais un petit copain.
J'avais un petit copain à 17 ans qui, lui, vivait déjà seul en appartement. Donc, à 17 ans, j'allais avoir 18 ans dans quelques semaines, quelques mois. J'ai décidé de quitter la maison. J'ai décidé que non... l'atmosphère familiale était rendue un peu lourde pour moi. Donc, j'ai décidé d'essayer autre chose, de vivre autre chose.
Et ça ne s'est pas vraiment passé comme tu voulais avec ton copain, parce que finalement, vous avez assez vite vu que ça ne marchait pas.
Ça ne marchait pas du tout. Ça ne marchait pas. Donc, très vite, je me suis trouvée face à la situation où est-ce que je devais encore une fois prendre mes affaires. Et là, j'étais devant deux choix. Ou le retour à la maison, ou ben comme je venais quand ça fonctionnait plus, lorsque j'ai eu mes difficultés avec lui, ben j'ai eu mes 18 ans.
Okay.
Donc à 18 ans j'étais légalement adulte, donc j'avais le choix ou de retourner chez mes parents ou d'aller vivre en appartement. Sauf que il s'avérait que j'avais pas de travail,
c'est
donc
ça.
J'avais pas d'argent, donc je pouvais pas subvenir à mes besoins.
Donc logiquement, t'aurais dû retourner chez tes parents.
Logiquement, j'avais, mais à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. Quand je me suis retrouvée face à ce problème-là, j'ai eu une prise de conscience. J'avais cette voix en moi qui me disait, ok, l'analyse est assez, t'es partie de la maison et tout, c'est assez, retourne chez les parents. Mais j'avais une autre voix qui j'étais remplie de peur. Je me disais non, retourner à la maison, vivre ce que j'ai vécu et tout. Quand je rentrais tard, il y avait des conséquences qui venaient par rapport à mes sorties et rentrées tardives. Et là, je suis partie pour plusieurs mois. Qu'est-ce qui m'attend? Ça va être pire. La peur a pris le dessus et j'ai dit non. Je ne peux pas retourner à la maison. Donc, à cette époque-là, j'avais une amie qui est venue me voir là où je restais et je lui ai expliqué la situation dans laquelle je me retrouvais. J'ai dit, là, je ne sais pas quoi faire, c'est fini avec mon copain. Donc, je dois retourner à la maison, mais je ne veux pas retourner à la maison, mais je n'ai pas de travail, j'aimerais ça dans un appartement. Donc, il s'est avéré qu'elle m'a offert une solution. Elle avait une solution pour moi.
C'est toute une solution. pas ce à quoi tu t'attendais.
Pas du tout. Donc, c'était une amie qui vivait pas mal les mêmes...
défis.
Les mêmes défis que moi. C'était une jeune qui était aussi partie de la maison pour... on avait des difficultés pas mal similaires. Alors, lorsqu'elle est venue me voir, elle m'a dit, mais écoute, Nali, moi, j'ai un moyen pour toi où est-ce que tu vas pouvoir faire de l'argent rapidement. Je dis, oui. OK.
Ça t'intéressait.
Ben oui, là, ça devenait intéressant. Je dis, ben, c'est quoi la solution? Elle me dit, ben, va dans les bars. Là, je lui dis, pardon. Elle me dit, ben oui, va dans les bars. Tu peux travailler dans les bars comme danseuse. Tu vas voir, c'est de l'argent rapide. En une soirée, tu peux te faire des centaines de dollars et tout. J'ai dit, pardon? J'ai dit, ben non, je ne pourrais jamais faire ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'elle le faisait déjà.
Okay.
Donc, elle le faisait, mais ne me l'avait jamais dit. Donc, elle m'a dit, ben écoute, Nali, je le fais. Donc, je peux te... Je le fais. Donc, c'est un moyen qui m'a aidée. Et là, je me suis dit, j'ai dit non, moi, je ne pourrais pas. J'ai dit non, ça, ce n'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans... mes parents prendraient que je suis dans un tel endroit, je suis foutue. J'ai dit non. Et d'ailleurs, de moi-même, c'est...
C'est ça, c'était impossible pour
c'était
toi d'imaginer
pour
que tu
moi.
Fasses ça.
Impossible. Et elle m'a laissé là comme ça. Elle m'a dit, ben, écoute, moi, tu m'as demandé pour une solution. Voilà, je t'ai apporté la solution, mais après, tu fais ce que tu veux. Mm-hmm. Et elle a quitté. Mais je me souviens que cette journée-là, en quittant, elle m'a laissé 100 $.
Oh.
Elle m'a dit, ben, tiens, regarde, pour manger ce soir et tout, tiens, je te laisse 100 $. Et je me souviens, j'étais tellement impressionnée.
Mm.
J'ai dit, mon Dieu, elle me laisse 100 $. Écoute, j'avais, en tant qu'étudiant, c'est la paye que je faisais en 3 semaines. Oui, c'était une fortune. Et là, j'ai dit, waouh, OK.
Là, tu as vu l'argent qu'on pouvait se faire.
J'ai vu. Et là, mm-hmm. j'ai vu que c'était, ce qu'elle disait, c'était réel. Ouais. Donc, elle est partie.
Mm-hmm.
Et je me souviens, cette nuit-là, je pense que je n'ai pas dormi.
Mm-hmm.
Je pense que je n'ai pas dormi. J'étais tiraillée dans mes pensées. Retourne chez tes parents. Oh non, mais il y a de l'argent aussi facile à faire. Et à la fin, je me suis dit, mais tu sais quoi? Si ma copine est capable de le faire, pourquoi je ne serais pas capable?
Ah ouais.
Si mon ami est capable de le faire, écoute, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer.
Et là, tu t'es retrouvée dans un bar, un peu à l'extérieur de la ville.
Exactement. Oui. Et là, le lendemain, je l'appelle, mm-hmm. je lui dis, écoute, offre acceptée.
Elle devait être étonnée.
Je lui dis, offre acceptée, mm-hmm. donc viens me chercher, je vais l'essayer avec toi. Elle me dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, elle vient me chercher et tout. Et effectivement, elle m'a emmenée dans un endroit, dans un bar à l'extérieur de la ville où est-ce que la première soirée a été pénible.
Mm-hmm.
Parce que vraiment, je me suis retrouvée, je me suis dit, je suis où?
Mm.
Je suis où? C'était un nouveau monde. C'était mm. vraiment...
Et pas un beau monde.
C'était pas un beau monde. Et je me souviens, à la fin de la première soirée, j'ai dit, je serais incapable. Je ne sais pas comment tu fais, mm. mais moi, je serais incapable de faire ce genre de choses.
Mm.
Puis elle m'a dit, parce que la première soirée, je n'ai pas bougé. Je suis restée dans le bar, dans un coin. Mm. Je n'ai jamais bougé de la soirée. Et elle était venue me voir pendant la soirée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, là? Il va falloir que tu bouges. Tu veux faire de l'argent, mais il va falloir que tu bouges.
Mm.
J'ai dit, je suis incapable. Je ne peux pas. Elle m'a dit, je vais t'arranger ça. Donc, elle m'a offert de l'alcool.
Ah oui.
Pour la première fois de ma vie, mm-hmm. je prenais l'alcool. Et quelques minutes après, là où j'étais coincée, pas capable de bouger, et là, j'étais décontractée. Mm-hmm. Je riais. C'était plus moi.
C'est ça.
Et yeah. c'est comme ça que de fil mm-hmm. en aiguille, quelque chose qui devait me dépanner, faire de l'argent rapide, ça devait me dépanner pour quelques semaines, puis tout.
Mm-hmm.
Ça a duré quelques années.
Exactement. Et là, on peut voir une photo de toi à cette période.
Ouais.
On peut la regarder et on voit que finalement... T'étais une personne complètement différente.
Ouais, vraiment.
T'étais là
c'est la seule photo de moi que j'ai de cette époque-là. Et waouh, cette photo-là, les émotions remontent vraiment.
Mm. T'étais malheureuse à ce moment-là.
Vraiment, cette photo-là... Juste quand je regarde cette photo-là, mon teint,
mm-hmm.
on voit que cette photo-là, j'ai le teint foncé, mais c'est même pas une question de flash.
Mm-hmm.
C'est le teint que j'avais, j'étais sombre, c'était...
T'étais sombre même d'apparence.
J'étais sombre même d'apparence. Le résultat d'une vie nocturne, d'une vie... misérable, de débauche. Excuse-moi. C'est...
On peut couper, si tu veux.
Non.
Ça va aller.
C'est... Voilà. Mais c'est le résultat de la vie que je menais. Mm-hmm. C'est ça. C'est... Waouh.
Mm-hmm.
Tout ce que je peux dire, c'est que... Et cette photo, je suis tellement contente d'être retombée dessus. Je pourrais jamais me débarrasser de cette photo parce que cette photo me... En voyant cette photo, j'oublierai jamais d'où Dieu est venu me chercher.
Mm-hmm.
J'oublierai jamais d'où Dieu m'a sorti. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut restaurer, qui peut transformer cette personne mm-hmm. que j'étais.
Mm-hmm. Amen.
Vraiment.
Après ça, t'as justement expérimenté ce que c'était que la puissance de Dieu pour...
Ah, ouais.
pour restaurer. Mm-hmm. Et on a peu de temps pour pouvoir rentrer dans tous les détails, mais tu as découvert ensuite qui t'était, ta valeur en Dieu. Tu as connu le Seigneur. Tu es sorti de tout ce milieu-là, de toute cette débauche. Tu t'es sincèrement repenti. C'est toute une histoire très, très longue. Mais Dieu a vraiment racheté le temps. Tu t'es fait baptiser ensuite.
Ah oui, wow.
Et là, tu as su que Dieu t'aimait tel que tu étais.
Vraiment. Vraiment. J'ai su qui j'étais en Jésus-Christ. Mm-hmm. J'ai eu la révélation de la croix. Jésus m'a montré le prix qu'il a payé pour moi à la croix. C'est là que j'ai rencontré Jésus personnellement. Mm. C'est là que Jésus m'a révélé ce qu'il a fait pour moi. Et que peu importe ce que j'ai pu faire, peu importe mon présent, mon passé, que à ses yeux, à lui, j'ai un grand prix. Et face à cet amour inconditionnel, c'est son amour inconditionnel m'a vraiment transformée.
Exactement. Tu as rencontré un homme formidable qui est ton mari aujourd'hui.
Ouais.
Vous avez eu deux petites filles ensemble. Et pour toi, cette Nali qu'on a vue sur cette photo, qui te touche encore autant, elle n'existe plus en
non.
fait. Elle n'existe plus. Tu es une autre personne. Tu t'aimes tel que tu es. Tu,
ah, oui.
tu t'assumes complètement.
Ouais.
Et avant de terminer, il y aurait, comme j'ai dit, énormément de choses à dire. Mais j'aimerais que tu puisses pouvoir t'adresser à des jeunes qui nous écoutent et qui sont dans ce chemin là où tu étais, un pied dedans, un pied dehors, à hésiter, est-ce qui je suis réellement, est-ce que je suis l'influence ou non. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire rapidement pour les conseiller, les encourager?
Premièrement, je veux vous dire aux jeunes qui nous regardent que peu importe ce que vous traversez, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe vos blessures, peu importe votre souffrance, il y a une seule solution et c'est pas une solution permanente, temporaire, je veux dire, c'est une solution permanente. Non, c'est pas une solution qui va venir vous alléger temporairement. Et la solution, vous avez beau tout avoir dans la vie, l'argent, tout, mais par-dessus tout ça, il vous manquera toujours une clé et la clé, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus, rencontrer Jésus, l'accepter, l'avoir, entamer cette relation personnelle avec lui, c'est ça qui fait toute la différence. Et vraiment, les mots me manquent pour vous dire à quel point une rencontre personnelle avec cet homme peut vous ramener vraiment de l'échec total à la réussite. Rien ne lui est impossible. Et vraiment, je vous encourage, les jeunes, à entamer cette relation personnelle Amen. Avec Jésus-Christ.
Amen. C'est le meilleur des conseils.
C'est le meilleur des conseils. Mmh. Et vraiment, devenir tel que vous êtes. Mmh. Vous n'avez pas besoin, pour venir à Jésus, de vous débarrasser de certaines choses. Non, c'est vraiment d'accepter l'œuvre qu'il a faite pour vous à la croix. Et c'est lui qui fait le reste.
Amen. Amen.
C'est lui qui fait le reste.
Merci infiniment, Nali, d'être venue nous ouvrir ton cœur, partager ton histoire. Et je crois vraiment que ça a touché énormément de personnes. Donc, vraiment, merci.
Gloire à Dieu. Merci.
Donc, gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie de Nali. Vraiment, c'est une vie qui a été transformée, qui a été rachetée. Et puis, on peut se dire, comment c'est possible? Elle était tellement tombée bas, danseuse dans les bars, dans tout un tas de péchés. Comment c'est possible? Comment elle a pu être même intéressée par l'évangile? Et vous voyez que Dieu peut toucher n'importe qui. Il faut pas se limiter. Il faut pas croire qu'on est tombé trop bas pour que Dieu vienne nous chercher. Mmh. Et on l'a vu, Jonathan, tu l'as dit dans la pensée, tu as parlé de cette parabole de la brebis égarée, et c'est vraiment important de se souvenir que peu importe là d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait, peu importe tous les péchés dans lesquels on peut être, Jésus est capable de venir nous chercher là où on est et puis d'abandonner tout le reste juste pour venir nous chercher nous. Donc revenez à Dieu si vous êtes éloigné de Dieu ou si vous ne le connaissez pas encore, vous êtes tombé sur cette émission, je vous invite à donner votre vie au Seigneur, à dire Seigneur Jésus, je te donne toute ma vie, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu pardonnes mes péchés aujourd'hui et je veux vraiment vivre pour toi à partir de maintenant, ma vie t'appartient, je vais t'obéir toute ma vie. Gloire à Dieu, vous êtes précieux, vous avez de la valeur, ne limitez jamais ce que Dieu veut faire dans votre vie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, merci d'avoir regardé toutes les émissions cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine, des émissions encore formidables, je vous le garantis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.